Radio France, la voix de l'Algérie française.
Je vis dans l'île de la Réunion depuis 24 ans. Je m'appelle Régine, j'ai 55 ans. Je suis d'origine corse par mon père. Il vient d'un petit village du Cap Corse, Nonza, pour ceux qui voudraient me reconnaître. Mon mari et moi, nous voudrions te dire merci pour ce que nous avons entendu ce mardi 23 novembre dans ton émission. Mon mari est d'origine juive par sa mère. Depuis un an, nous avons une petite fille aux yeux bridés et depuis 15 jours une autre plutôt café au lait parce que sa maman est cafre, comme on dit ici. Elle n'a pas trop envie d'aller en Corse car elle a vu à la télévision des Corses en Corse qui tenaient des propos racistes. Mon père ne nous a jamais appris que les Corses étaient des êtres à part, différents ou mieux que les autres. Bien sûr qu'elle est belle, l'île que mon grand-père a quittée pour être mousse sur les bateaux. Qu'elle est belle, la propriété où mon frère et mes sœurs nous avons passé toutes nos vacances d'été. Mais qu'est-ce qui leur prend aux Corses à vouloir mettre les pinceaux dehors, à assassiner un préfet et à s'attaquer aux Maghrébins? Il y a pourtant une tête de mort sur le drapeau corse. J'attendais depuis longtemps que des Corses et des hommes politiques parlent avec leur cœur pour condamner tous ces actes. Hier, j'ai entendu parler des gens sincères. À bientôt. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel. C'est Annie, là, d'un petit village de Corse du Sud. Merci, merci d'avoir parlé de ce que vous avez parlé, c'est-à-dire du racisme en Corse. J'ai mal et j'ai honte. Je veux simplement vous dire, j'appelle d'un petit village de 350 habitants, 25 km d'Ajaccio. La prière des Goumiers. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés au bruit de l'Occident. Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent contre nous, épaule contre épaule, et qu'ils sachent, ô Seigneur, qu'ils sachent combien nous les avons aimés. Cette prière est frappée dans la pierre, Daniel, en souvenir des Goumiers marocains qui sont morts en combattant pour libérer Bastia le 4 octobre 1943. Hola Daniel, Irine Radio, je te remercie. Venez de Noy, viens chez nous Daniel, viens. Parce que c'est vrai, 23 ans j'écoute France Inter, quand je t'écoute, c'est la première fois que tu parles de nous, ça fait mal, mal ce qui se passe chez nous. Donc voilà, j'ai fini. Kéba, j'embrasse tout le monde. Je t'embrasse et j'embrasse tout le monde. Merci.
Merci Yannick, ce message bouleversant, cette prière des Goumiers, inimaginable. Superbe émotion, beaucoup de messages la suite des deux émissions d'hier et d'avant-hier sur les violences raciales en Corse. Faut quand même se réconforter les Corses. Il y a quand même des Corses qui sont doués non seulement de raison évidemment, mais de conscience et d'émotion. On vient d'en avoir une preuve et c'est promis. Il y a plein de Corses qui disent ah mais pour la première fois que la Bassie j'y suis parle de la Corse, c'est pour parler de ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est promis, juré, craché par terre. On ira bientôt vous voir en Corse et on fera des émissions ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu dans le fil, un peu comme si on suivait un cheminement. C'est à côté de Toulouse, vers Albi, quatre paysans qui ont la bouteille maintenant. Ils sont papis, ils ont les cheveux blancs, chenus, ils sont. Mais il y a quelque chose qui gâche leur automne. C'est l'Algérie, c'est la guerre d'Algérie, c'est leur jeunesse en Algérie. C'est non pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils auraient voulu faire, c'est se révolter, c'est résister, c'est en avoir fait plus qu'ils n'en ont fait. Et ils se révoltent sur leurs vieux jours, ils se révoltent très modestement. C'est pas des héros qu'on va retrouver pendant cette heure de la base si j'y suis. C'est simplement des hommes avec une conscience et une raison là aussi qui refusent d'utiliser leur retraite d'anciens combattants. Je crois que c'est 436 € par an. Et ben ils refusent d'utiliser cet argent là pour eux-mêmes et ils essayent d'en faire autre chose. C'est ce qu'ils vont nous raconter dans cette heure de la basse où j'y suis. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la basse où j'y suis, 01 56 40 37 37.
Je ne suis jamais intervenue malgré l'intérêt que toutes me procurent. Ce soir, c'est la Corse qui me sollicite. D'autant que j'y suis allée cette année pour la première fois et que je compte bien y retourner. Ces témoignages très émouvants complètent l'aperçu que j'ai eu. En écoutant Marc et Samira, je pense aussi que les mariages mixtes peuvent favoriser l'antiracisme. Mais il n'y a pas que cela. Je peux vous parler de l'immigration italienne en Provence et vous affirmer que les mariages mixtes n'étaient pas bien acceptés. J'en suis issue. Aujourd'hui, c'est acquis, mais le racisme anti-maghrébin est très fort chez nous. Et les Provençaux d'origine italienne ne sont pas les derniers. Je pense que le racisme est toujours entretenu par la crise économique, l'ignorance, et qu'il est combattu notamment par l'éducation et l'égalité des droits hommes-femmes, si bien beaucoup. C'est un vaste sujet. Il y aurait tant de choses à dire. Je vous salue tous amicalement. Bravo pour les chants corses. J'ai presque tout compris. À bientôt.
Ma femme aime bien les chants corses. Alors, elle le dit à mon voisin qui, lui, est corse, un vrai. Elle dit, j'aime bien les chants corses. Là, tu dis, moi, j'aime pas du tout. Ah bon, pourquoi? Parce que ça fait trop arabe, les chants corses. Salut.
Salut, Daniel. Renaud de Lens en Vercors. Je suis le fils d'une de ces femmes qui résistait à l'occupation nazie avec Noël Vincencini, Josette Père donc, qui est partie avec elle en déportation à Ravensbrück et qui avec elle est revenue grâce à la solidarité entre détenus là-bas. Je transmets mes amitiés à Noël et je rends hommage à son engagement et à sa persévérance dans la lutte contre le racisme qui malheureusement prouve sa permanente actualité en Corse et ailleurs. J'aimerais d'autre part évoquer un autre registre de la bêtise humaine qui nous navre ici dans le Vercors, qui est une autre terre de résistance. Il s'agit de la prolifération des casinos et des machines à sous dans cette région où plusieurs communes ont le label qui permet d'implanter ce type d'établissement, comme en particulier ici à Lens-en-Vercors. Alors les casinotiers démarchent donc les maires en leur promettant des retombées juteuses, et les maires ne marchent pas, ils courent. Sans trop se poser de questions et surtout sans en poser aux électeurs, aux citoyens qui ne sont jamais consultés. Les vieux de toute la région, les trop jeunes, les fragiles de toutes sortes vont donc venir vider leur compte en banque pour nous payer des beaux lampadaires et des beaux trottoirs, c'est bien. Comme on crée entre 1,5 et 5 % de dépendance pathologique au jeu avec ce type d'établissement, c'est bien, on aura des revenus durables assurés. Nous sommes assez nombreux à être dégoûtés par ce cynisme et nous avons créé une association intitulée Lens Vegas. Voilà, on fait ce qu'on peut, des pétitions, des recours divers. Mais voilà, le maire veut ses machines à sous. Daniel, il faudra que tu viennes mettre ton nez dans ce sale milieu. Salut et à bientôt, j'espère. Renaud Dubois, donc, de Lens en Vercors.
23 novembre 2004... C'est la révolution à Kiev. Aujourd'hui, les manifestants donnent des fleurs aux policiers qui les acceptent. Un match de foot a été transformé en arène politique. C'est une belle nouvelle. Le peuple a le pouvoir de rêver et de construire son futur. Et son présent, bien sûr. Allez, à bientôt. Bonne continuation.
Ce soir, je vous propose d'écouter les messages familiaux des militaires du secteur postal 88106.
Secteur postal 88106, 3e section de la 2e compagnie, sont heureux de profiter de la voix des ondes pour faire parvenir à leurs familles et leurs amis respectifs leurs affectueuses pensées.
Ici chasseur Fayol, alors j'embrasse bien
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, ils eurent 20 ans dans les ORS.
Flight number 2, arriving from
Le moral est bon, la santé est bonne. Ici, première classe, Lucien Joseph. Je profite de ce passage de radio pour adresser à mes parents de mes bonnes nouvelles, ainsi que mon proche retour. Ici, première classe Fricourt, j'envoie le baiser chez mes parents et le moral est bon, la santé.
Chasseur Basile Robert, je profite du passage de la radio pour embrasser ma fiancée ainsi que toute ma famille et votre santé aussi.
Je suis parti à 20 ans en Algérie directement, j'ai fait mes classes là-bas. C'était en 58, mois de mars 58,
juste quand j'avais pas 18 ans.
Chasseur Rigolet Jean-Louis, SP 88-106. Je profite qu'on a la radio pour donner le bonjour à toute ma famille.
Les hommes des contingents rappelés doivent savoir qu'ils vont en Algérie remplir une mission nationale. Leur rappel sous les drapeaux, leur présence là-bas témoigne d'abord de la volonté de la France de rester en Algérie. Aucune équivoque n'est désormais possible, ni pour les musulmans, ni pour l'opinion mondiale. La solution du problème algérien ne sera trouvée que dans le cadre de liens indissolubles entre l'Algérie et la métropole.
Robert, Michel, Georges, Armand. Robert, Michel, Georges, Armand. Rien que leur nom, ça en dit long sur toute une génération qui n'en a pas dit long sur elle-même. Je parle de ceux qui, pendant 20 mois, 25 mois, 30 mois de leur vie, entre 1956 et 1962, y sont allés là-bas, les hommes du contingent, les appelés, et les rappelés aussi du contingent, qui sont partis sous les drapeaux, comme vient de le dire un certain Guy Mollet, sous les drapeaux. Aujourd'hui, j'en ai retrouvé quatre, qui s'appellent Robert, Michel, Georges et Armand. C'est dans un petit patelin à côté d'Albi, dans le Gaillac, une belle journée d'automne. Les vignes, tout est paisible, et ces hommes qui sont autour de moi, sont assis autour de moi, sont hantés par ces souvenirs-là, par cette jeunesse volée, bien sûr, comme elle le fut à près de 2 millions de Français qui ont aujourd'hui, voilà, dans ces âges-là, les plus jeunes ont 65, et puis après, bon, ça va autour de 70 ans aujourd'hui. Sauf que ces quatre-là sont hantés, non pas par ce qu'ils ont vu, non pas par ce qu'ils ont subi, mais par ce qu'ils n'ont pas fait. Ils estiment qu'ils auraient dû en faire plus. Ça les a travaillés tout au long de leur vie. Aujourd'hui, cette mémoire apparaît, remonte à la surface depuis quelques années. Il y a assez peu de temps, il a fallu attendre toute la réflexion sur Vichy et surtout Papon. Papon, tortionnaire en Algérie, ça a remué quand même beaucoup de conscience et d'inconscience dans notre pays. Nous avons refoulé cette histoire douloureuse, difficile, et qui concerne pas seulement ces 2 millions d'hommes, mais c'est donc 2 millions de familles déjà, mais les autres aussi, les immigrés algériens, les harkis, les militants de l'indépendance algérienne ou de l'Algérie française. Au tout, selon l'historien Benjamin Stora, ce serait environ 5 millions d'entre nous qui seraient concernés, directement concernés, et travaillés et hantés encore par cette histoire. Mais les autres, est-ce que la France a bien compris son histoire? Est-ce que c'est devenu vraiment de l'histoire? Est-ce qu'on n'en est pas encore seulement à l'époque des témoignages? C'est ces questions qui les hantent, et ils veulent pas finir leur parcours sans y avoir mis leur grain de sel. C'est cet esprit de résistance qu'on a entendu hier avec la voix de Noël Vincenzini à Ajaccio, cette résistante qui résiste toujours au racisme dans son île, dans son pays. Et ben ces hommes-là résistent aussi à leur façon, et ils vont nous dire comment. C'est là-bas si j'y suis, c'est jusqu'à 18h, c'est France Inter.
On ne sait pas ce qui va se passer, mais on est surtout là pour dire que nous serons toujours là. pour l'Algérie française. Vous pouvez le répéter, ça.
Nous sommes là pour défendre la France.
Nous sommes là pour beaucoup plus que ça. Voilà, quand ils sont apparus au balcon, les quatre grands qui sont venus, parce qu'il n'y a que ceux-là de grands, monsieur, oui. Ils ont dit qu'ils faisaient leur sacrifice de leur peau. Il y a un moment qu'on a fait le sacrifice de leur peau. C'est pour ça que nous sommes là, monsieur, pas pour autre chose. Parce qu'on a cru que ce soir, il fallait leur en faire un cadeau de notre peau, monsieur. Même les femmes sont là pour ça, monsieur. Ça, vous pouvez leur dire bien fort, monsieur. Et pas pour autre chose, monsieur. Moi, je suis de Toulon. Il y a 30 ans que je suis là. Il n'y a personne qui me fera jamais partir, monsieur. Même pas à la nage, je ne sais pas nager.
Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
Je suis parti à 20 ans en Algérie directement. J'ai fait mes classes là-bas. C'était en 58, mois de mars 58.
Donc avec pas 18 ans, 20 ans.
20 ans. Hmm? 20 ans. Et donc, voilà, j'ai vu la guerre dans toute son atrocité, j'ai vu les souffrances de la population, la misère de la population, la torture qu'on infligeait aux gens, la mort, et je n'ai rien fait, et ça... J'ai toujours regretté de n'avoir rien fait, de ne pas avoir été déserteur, par exemple, ou d'avoir dit non d'une façon ou d'une autre. Et donc, quand l'âge fatidique de 65 ans arrive, on a droit à la retraite d'anciens combattants. Et j'ai dit, cet argent, moi, je le prends pas, quoi. Je ne peux pas le prendre.
Voilà, c'est comme ça que ça s'est produit, c'est comme ça que ça a commencé, et c'est comme ça qu'on se retrouve autour de cette table avec Rémi Serre qui parle, et Georges, son vieux copain, et puis Armand, et puis Michel Delceau, et puis Robert Mazran. Voilà, on est 5-6, et autour de leur idée, ces anciens appelés en Algérie contre la guerre refusent la retraite du combattant. Ils refusent la retraite du combattant pour eux-mêmes et ils veulent que leur pension serve la paix. Alors leur pension, c'est pas énorme, c'est 436 euros par an. Eh bien, ils en veulent pas. Ou plutôt, ils entendent garder cet argent-là et puis l'attribuer alors à des choses diverses et variées. Ils cherchent d'ailleurs la première fois, puisque cette association vient de se créer, c'est une toute petite association, hein, faut bien dire les choses, ils sont une quinzaine pour l'instant, avec une dizaine de sympathisants, enfin c'est vraiment embryonnaire, mais je sais bien qu'à la fin de cette émission, ça va devenir une association très très puissante, parce que tous les anciens d'Algérie vont vouloir faire la même chose. Et donc, ils ont gardé ces fonds et puis ils les ont attribués donc à, ils les ont mis dans un convoi syndical pour la Tchétchénie, voilà, qui a aidé des enfants tchétchènes réfugiés en Ingouchie. Voilà, c'est leur premier geste et là ils veulent que ça continue. C'est pas des héros, c'est pas des salauds, c'est pas des victimes, c'est des hommes ordinaires assis un samedi dans une maison. Par la fenêtre, on voit le merveilleux paysage d'automne sur les vignes. Il fait très doux et la conscience travaille et la résistance est là.
Je me suis jamais pardonné de ne rien avoir réagi, d'avoir vu des choses, de rien. J'ai rien fait comme Rémi de pouvoir me reprocher, mais ça me révolte. J'ai le sentiment que je me suis fait avoir, que j'étais embarqué dans un truc et on a été.
Georges.
Je me dis, on n'a rien fait. Moi, j'en ai. Même là, on commence à en parler maintenant, je n'ai jamais parlé, même à mes enfants, moi. Parce qu'on n'était pas fiers de. D'avoir bon, on n'a rien fait de mal, mais on a cautionné, on est complice d'un truc qui bon, c'est moi, ça me, j'en suis encore révolté maintenant, encore quand on nous dit que les jeunes qui ont donné leur vie pour la France ou qui sont morts au champ d'honneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est parti là-bas, on ne savait pas pourquoi. Moi je dis à ces gens-là, on leur a volé leur vie à 20 ans pour rien, et ça, moi, ça me révolte. On le voit en Irak maintenant, on dit les Américains c'est des barbares, mais nous on a fait pareil. Et c'est un engrenage, c'est la guerre qu'il faut condamner. C'est un engrenage, si on y met les doigts, il faut accepter qu'il y aura des exécutions sommaires, qu'il y aura de la torture, parce que quand on voit les copains tués, parce que on est conditionné par l'armée, ben on devient des, je sais pas, au minimum on est amorphe, et au maximum on devient des brutes, quoi.
Armand Verniette, j'étais agriculteur, je suis à la retraite, et j'ai été aussi élu de ma commune et de mon canton. Et lorsque Rémi Serre m'a parlé de cette action, Rémi Serre que je connais puisque j'ai passé un an avec lui en Algérie, en Grande Kabylie, j'ai été de suite d'accord pour participer. Ça m'a paru une très bonne chose, et j'avoue que pour moi, ça a été l'occasion de parler de la guerre d'Algérie, parce que vis-à-vis de ma famille, de mes enfants ou de ma famille, ils peuvent dire que je n'en parlais jamais, un peu que j'avais mauvaise conscience et un peu que ça n'intéressait pas tellement mes parents ou l'entourage. Moi, j'avoue que j'en ai eu conscience lorsque j'étais là-bas. J'ai même dit, et c'est un peu dur peut-être de dire ça, moi qui suis un responsable du comité des anciennes Algérie de chez moi, du canton, quand j'étais là-bas, je disais, si j'étais en Algérie, je serais certainement fait le laga. Bon. Alors, c'est vrai que j'en avais pris conscience, mais je dis aussi que j'avais été loyal, puisque j'avais un sursis, j'avais 5 ans de sursis, j'aurais pu éviter l'Algérie. Mais je suis un de ceux qui... J'étais solidaire avec mes copains de ma commune qui était là-bas, et je me dis, c'est pas normal que je n'y aille pas, alors que j'étais aîné de 7, on avait besoin de moi à l'exploitation. C'est par un désir de solidarité, et c'est peut-être de l'imbécilité, mais voilà, je l'ai fait. Alors, c'est dire que j'en avais eu assez vite conscience, mais... comme mes copains de mon canton, ceux que je connais, et puis les autres, on avait quand même un peu mauvaise conscience.
Vous ?
Michel Delceau, je suis paysan à la retraite. J'ai été, disons, sensibilisé par Rémi Serre, et de suite, j'ai trouvé son idée fabuleuse. Je suis allé en Algérie, moi, de juillet 58 à octobre 59. J'ai passé 13 mois en Kabylie. J'étais dans la 77e CT, une compagnie de transmission. J'étais opérateur. Je n'ai pas souffert comme mes trois collègues, là, mais j'étais allergique au fait d'avoir une arme et de savoir que cette arme pouvait tuer d'autres personnes. Et j'étais dans l'optique d'un objecteur de conscience, et je ne pouvais pas supporter. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis opérateur radio, en sachant que j'aurais été peut-être plus efficace à l'armée opérateur radio plutôt que sur le terrain avec une arme. Mais on n'en parlait pas.
Et vous ?
Robert Mazeran, j'étais sur Citer et je n'ai pas fait l'Algérie. Je suis parti à l'armée au moment où c'était la fin. Mais j'étais sensibilisé au problème algérien parce que j'ai la maison qui est à la cavalerie, sur le Larzac.
Aha.
Et il y avait là un camp d'internement d'Algériens. En France, enfin, nous avions 5 camps d'internement, dont un en Algérie et 4 en France, où il y avait des suspects, des gens, des femmes, des enfants qu'on internait. De personnes âgées, des suspects. Et là où on disait, les gendarmes disaient, oh, mais là, c'est des mauvais sujets qu'on a internés. N'empêche qu'il y a eu de la torture, là-haut, à la cavalerie, dans ce camp militaire. Voilà. Alors, ça faisait, ça fait mal, quelque part. Et j'étais dans un régiment où il y avait un certain nombre d'anciens pilotes d'Algérie, pilotes d'hélico, bon, et qui racontaient leurs histoires, leurs fraudaines. Moi, bon, j'étais là au bureau, bon. Alors, quelque part, ça fait mal, ça fait mal.
Et alors, qu'est-ce que t'appelles les fraudaines?
Les tortures, les déplacements de personnel, le napalm, les incendies, etc. Bon,
les viols.
Les viols, sans compter. Ouais. Ils étaient heureux de. Alors là, ce qui m'a interpellé très fort, c'est qu'ils étaient fiers. Un certain nombre qui étaient fiers de dire, on a fait ça, hein. Alors ils se moquaient des paysans du coin parce qu'ils ont dit, si on était en Algérie, on leur ferait voir comment ça se passerait. Voilà, ça m'a interpellé très fort.
Attention, Français de souche nord-africaine et Français de souche européenne, j'ai reçu l'ordre du général commandant-chef d'assurer votre tranquillité et votre sécurité. En conséquence, je n'admettrai aucun incident, qu'il vienne de la part des Européens comme de la part des musulmans. L'armée est ici pour vous protéger.
Un million de morts du côté algérien, 30 000 du côté français. Et parmi eux, ben ces petits gars-là, qui s'en sont sortis et qui en sont sortis et qui essayent d'en s'en sortir par le haut. Aujourd'hui, c'est d'anciens appelés en Algérie qui refusent la retraite du combattant. Ils veulent que leur pension serve la paix. Je vais tout de suite vous donner leurs coordonnées. Association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Et leur adresse, c'est leur pub est quand même assez modeste hein, pour l'instant. Boîte postale 229 81 006 Albi Cedex, je répète, Association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, boîte postale 229 81 006 Albi Cedex. Alors, ça a été long quand même avant qu'on ose parler. C'est des silences, c'est un silence très très long et quoi, ça fait rien le silence, mais non bien sûr, ça a fermenté au fond de ce trou de mémoire, ça a fermenté, ça a gangréné profondément, et l'âme et le corps social de notre pays. Aujourd'hui, ça sort, il a fallu inverser complètement la valeur de la mission colonisatrice de la France pour reconnaître qu'on était allé là-bas pour faire suer le burnou. Mais il y avait une résistance algérienne qui s'inspirait beaucoup des valeurs occidentales, des valeurs universelles, des valeurs républicaines elles-mêmes. On sait comment la résistance algérienne a puisé le fond de son, le socle de ses idées et de ses aspirations dans la résistance française. Et c'est un renversement complet de valeurs qu'il fallait accomplir. Lorsque ces hommes qui nous parlent là sont revenus au début des années 60, après l'indépendance, on ne voulait pas les écouter. De toute façon, on n'aurait pas voulu les écouter. De toute façon, ils n'ont pas parlé. Mais c'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce qu'on ne parle pas, et c'est pas parce qu'on n'écoute pas que la mémoire ne continue pas de travailler. On ne sait pas à quelle profondeur ça travaille une société. On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais on en connaît certains effets. On connaît certains effets. Aujourd'hui, ils sont là, ils ne veulent pas que ça finisse comme ça, et ils racontent. C'est Rémi Serre qui raconte.
Ici, à Radio France, la voix de l'Algérie française.
Sur la feuille de route, il y avait Port-Vendres, dont tu pars, et tu pars avec le train, et que j'avais jamais pris.
Et puis t'arrives à Port-Vent, tu vois la mer que j'avais jamais vue.
On est en 58 là.
Oui, j'avais jamais vu la mer. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, le lendemain, tu pars, tu fais 48 heures de bateau et tu te retrouves à Oran. Et là, tu découvres à mesure que tu avances. Tu sais, les gens qui étaient sur le bateau avec moi étaient tous assez tristes. Hein, c'était pas la fête sur le bateau. Et puis en plus la mer était très mauvaise et c'était d'autant plus désagréable. Et c'est comme ça que je suis retrouvé dans un régiment disciplinaire parce que là il y avait de la place au premier RTA.
Pourquoi disciplinaire ?
Eh bien parce qu'il y avait de la place dans le régiment disciplinaire. Normalement on envoie les fortes têtes là, mais moi j'étais pas forte tête, mais il y avait de la place, donc je m'en envoyais là. Mais on m'a pas fait de cadeau. J'ai pris les contraintes et le règlement du régiment disciplinaire. Et nous avons eu des classes très dures. C'est-à-dire, il fallait mater ces petits qui venaient de France, les apprendre à obéir, les apprendre à écouter, et surtout les apprendre à tuer sans contestation, les apprendre à tuer et à faire ce qu'on nous disait de faire. Mais très vite, même si on n'était pas sorti de notre trou avéronais, on avait compris que l'Algérie ne resterait pas française. Pourquoi ? Parce que...
Vous, quand tu dis « nous avions », c'était qui ce « nous » ?
Nous, c'est nous, les gars, les appelés. On avait quelques discussions dans la chambrée où on sentait très bien que un jour ou l'autre, on partirait d'Algérie. Parce que la population était contre nous. Elle faisait semblant d'être avec nous parce que s'il était contre nous, elle était punie d'une façon ou d'une autre. C'était très long à développer, mais... Elle était contre nous et c'était normal qu'elle soit contre nous parce qu'on a fait trop de gentillesse à ces gens. Viol, torture, misère, déplacement. 2 millions d'Algériens ont été déplacés. Il y avait plein de montagnes où c'était interdit. On avait déplacé la population soi-disant pour les protéger. Alors on les ramenait autour de notre poste. Pour les protéger, mais du coup, qu'on les ramenait autour de notre poste, ils avaient perdu leur poule, leur canard, leur trois chèvres, leur âne, leur bout de jardin, ils n'avaient plus rien à manger. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient? Quelques sacs de soumoule que distribuait l'armée par l'intermédiaire des SAS. Et c'était distribué assez régulièrement et c'était la misère totale dans ces villages regroupés. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas être avec nous. Je crois que je n'ai jamais tué quelqu'un.
C'est une drôle de phrase, hein. Je crois que je n'ai jamais tué quelqu'un.
Oui, mais dans le civil, on est puni, mais là-bas, on a une médaille. Donc, si j'avais tué quelqu'un, j'aurais été médaillé. Ceci dit, je préfère ne pas avoir la médaille.
Est-ce que tu étais, t'avais une conscience politique, t'avais un engagement, des positions politiques à l'époque?
Pas quand je suis parti, mais après on rencontre plein de gens. J'en ai rencontré entre autres des scouts. Et puis il y avait un gars du Parti communiste aussi qui nous avait un peu ouvert les yeux, quoi, qui nous avait aidé à comprendre que l'Algérie ne resterait pas française. Mais un petit peu moins, beaucoup moins engagé que ce que nous pouvons l'être à notre âge. La torture était systématique. C'est-à-dire que tout prisonnier était torturé. Et il commençait à être torturé quand on le prenait dans la montagne. On avait un commandant qui s'appelait Pépone, qu'on appelait Pépone, parce qu'il s'appelait pas Pépone. Il s'appelait De Périssy. C'était un Corse. Alors quand on faisait un prisonnier, il avait un poignard et puis il piquait avec la lame les côtes du prisonnier et puis jusqu'à ce qu'il parle. Mais souvent il savait rien, donc il pouvait pas parler. Alors il y avait du sadisme là aussi, il savait qu'il savait rien, mais il piquait quand même. Après la torture existait, c'était le début, après elle existait au poste. Au poste, là, les prisonniers ordinaires, on torturait les prisonniers ordinaires au poste, par la GIGN que tout le monde connaît, par le feu même. Le feu, j'ai vu un cas où... Le tortionnaire s'est mis en colère, il a pris le petit, oui, parce qu'il avait 17 ou 18 ans sous son bras, il l'a mis dans le feu de cheminée. Voilà, jusqu'à ce qu'il brûle un bon peu, et donc, après il a pas parlé parce qu'il savait rien, donc il pouvait pas parler, il pouvait inventer, c'est tout. Et puis il y avait les coups c'était des coups terribles. Moi qui ai conduit des bêtes toute ma vie, j'ai jamais tapé sur une bête comme on peut taper sur un prisonnier.
Et puis la torture, pour continuer un peu, les gars qui étaient pris, qui avaient une responsabilité dans le maquis, étaient envoyés à Alger ou à Tizi Ouzou, dans des maisons spéciales de torture et de renseignement, où là je ne préfère pas savoir ce qui s'est passé, parce que j'ai lu quelques livres depuis qui donnent froid dans le dos. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que un jour j'étais de garde, là j'ai vu une femme nue par une nuit de moins de 3 ou moins 4, et qui était blottie contre le mur, et la salle de torture était à côté. Alors j'ai bien compris qu'il y avait une histoire, et le lendemain j'ai demandé, mais ils ont dit elle a pas voulu parler, alors on l'a arrosée d'eau froide et on l'a mis dehors, et puis on a pensé que quand elle reviendrait, elle parlerait un peu plus. Ça, je l'ai vu, moi. Et j'ai vu un prisonnier qui était un homme très costaud à l'époque de 40 ans, le lendemain hein, d'une torture, pas beau à voir. Et avec Armand, des fois, on allait lui apporter à boire, on va manger. Ça, je l'ai vu, moi. Et puis après, moi, quand j'ai été du côté d'Alger, là, j'étais pas loin d'une maison où on torturait. Et j'ai rien vu, mais j'ai entendu. Et quand tu entends... Quand tu entends hurler des gens comme tu les entends, tu peux croire qu'ils sont pas en train de passer une partie de plaisir.
Est-ce que tu as prévenu, écrit à l'époque? Est-ce que tu t'es mobilisé? Est-ce que, ou bien vous avez encaissé ça en disant c'est dégueulasse, mais on fait rien? C'est plutôt ça que vous avez fait?
On l'a jamais encaissé de bon cœur, mais c'est sûr qu'on n'a rien fait. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui ça nous rend un peu malade et qu'on essaie de se rattraper, mais c'est trop tard. C'est sûr qu'on aurait dû faire quelque chose, mais que faire? Que faire quand tu es dans un bled, perdu en Kabylie, que si tu sors de là, tu es sûr de tomber en tant que soldat dans les mains des Fellahs? Et même si tu leur dis que tu viens chez eux pour défendre la cause, je sais pas si ça va être facile. En plus, il y a le problème de la langue qui n'est pas le moindre. Il faut expliquer. Qu'est-ce qu'on pouvait faire encore? Quand on descendait à Tizi Ouzou pour le ravitaillement, on aurait pu partir, quitter l'armée, mais aller où? Dire quoi? La torture, tout le monde savait qu'elle existait. Il fallait trouver quelqu'un qui nous aurait écouté, qui nous aurait entendu, qui aurait écouté notre... Donc c'était pas facile, mais ça ne justifie pas notre silence.
Il dit, je m'en suis bien tiré, je crois n'avoir tué personne. Tout ce que j'ai perdu en Algérie, c'est le pouvoir de révolte. Ça ne fait pas grand-chose pour un voyage aussi long. Il dit qu'il se construit quelque part et tout seul une maison. Il dit, je me souviens d'un gosse le ventre haché par les balles qui me regardait. Et puis, j'ai perdu aussi un petit canif que j'aimais. Comme il fait bon chez toi, il pleut, j'attends, je ne sais pas quoi.
Ici, chasseur Graziani Louis, je profite du passage de radio pour embrasser bien affectueusement toute ma famille, le moral est beau et la santé aussi.
Ici, chasseur Rigolet Jean-Louis, SP8806, je profite qu'on a la radio pour donner le bonjour à toute ma famille, et la santé est bonne, le moral est bon.
Ici, chasseur Aubin, tout va bien, je souhaite le bonjour à tous mes camarades se trouvant en AFN, et j'embrasse de tout cœur ma fiancée et mes parents, ainsi que tous mes amis.
Il y a 50 ans, voilà. Qu'on pouvait entendre sur les ondes nationales, ou les autres aussi, les radios commerciales, on pouvait entendre ces voix. Je sais pas si ceux qui sont autour de moi aujourd'hui, Robert, Michel, Armand, Georges et Rémi, ont à l'époque envoyé des messages. Vous avez vu comme ces messages sont calibrés, il faut dire que tout va bien, il faut dire qu'on profite de la radio, c'est-à-dire qu'il faut se taire. Et ils ont pris le pli, ils se le sont tus, et aujourd'hui, ils parlent, ils ont constitué donc cette association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Je rappelle encore une fois leur adresse, boîte postale 229 81 006 Albi Cedex. Ils refusent la retraite, leur retraite de 423 euros par an, ils la refusent et ils attribuent ces fonds à des associations ou des actions de résistance aujourd'hui. Et il raconte, c'est Georges Treilloux qui raconte.
Nous a dit, bon, ben vous partez, on embarque cette nuit, ce soir. Bon, il y a des camions qui sont arrivés. On nous a embarqués de nuit, et puis au lieu d'aller dans une gare, la gare de Lyon ou la gare d'Austerlitz, on s'est retrouvé à la gare de Tolbiac, qui est une gare de marchandises à Paris. On arrive là, on était encerclés par des gardes-mobiles en armes, et des camions nous ont embarqués dans les trains, et les gardes-mobiles sont montés dans les couloirs, comme si on était... Et ça, ça venait que, juste avant nous, il y avait eu les rappelés. Il est rappelé, quand on a 2 ou 3 ans de recul, on le voyait avec les sursitaires, c'était plus du tout la même... Ils étaient beaucoup moins malléables que nous, quoi. Et ils s'étaient couchés, je sais pas si vous vous rappelez, ils s'étaient couchés sur les rails. Mitterrand était ministre de l'Intérieur à l'époque, il avait commencé à dire, si ça continue, on va en fusiller quelques-uns et puis ils partiront. Et voilà, on est arrivé là-bas... En Algérie, moi, la première chose qui m'a frappé, c'était la misère des Algériens par rapport aux colons et tout ça, les différences de tout, de vêtements, de maisons. Il faut voir dans quoi ils habitaient, quoi, des maisons en terre et tout ça. Il a la misère des gosses en haillons. Dès qu'on arrivait, les gosses étaient là pour demander si on n'avait pas un bout de chocolat ou une cigarette. Tout de suite, on a senti la misère, quoi.
Tu avais une conscience politique, tu militais.
J'étais comme Rémi, j'avais été dans des mouvements de jeunesse où on en avait parlé, mais un peu quand même. Mais alors là, c'est là que ça commence. On arrive là-bas, ça venait d'être créé. Il y avait le service psychologique de l'armée. Ça voulait bien ce que ça veut dire. Ça était mis en condition. On arrivait là, il y avait les barbares. Il y a nous qu'on a mené là. Un peu la civilisation, disons, ou je sais pas quoi. Puis on recevait le bled. Le bled, c'était le journal d'action psychologique de l'armée, c'était le seul qui était permis. On avait droit. On était à match, Jour de France et le bled. Tous les autres journaux, ça faisait 150 journaux interdits. Les plus visés, c'était l'Express de l'époque, pas celui de maintenant. L'Humanité, Témoignage chrétien, ça, c'est celui qui lisait ça, c'était, il fallait s'expliquer, ça méritait presque de la tôle.
Et l'Observateur.
Et l'Observateur aussi, oui, j'avais oublié. On était vraiment là, puis alors après ça a commencé de voir les attentats côté FLN, des gens égorgés, des copains qui sont tués, qui sont égorgés, que vous retrouvez avec le sexe dans la bouche, tout nu. Et... Tout ça,
ça... Ça, tu as vu ça?
Oui, j'en ai vu une vingtaine comme ça. Et ça crée un climat où il y a la peur, il y a la... Puis de dire, bon, nous on est les bons, les autres c'est des salauds, quoi. C'est un peu ça, jusqu'au jour où après on a revisé un peu.
Est-ce que vous compreniez le FLN? Est-ce que vous acceptiez, parce que c'était quand même des terroristes, comme tu viens d'évoquer, non, ces images des gars retrouvés avec les couilles dans la bouche?
Parce qu'on a eu des morts, parce que tout ça. Mais la population algérienne, oui, nous on la comprenait, parce que bon, on voyait bien que ces gens-là, c'est eux qui. Moi, quand je suis arrivé là-bas, quelqu'un pour sulfater. C'est-à-dire avec un appareil à sulfater les vignes de 20 kilos, toute la journée, ils avaient 5 francs par jour. Et ça venait de doubler. C'était dans la chaleur et tout. Et puis, les jours de boulot, parce que les autres jours, ils étaient sur la place, on allait les chercher. Et que c'est des conditions d'exploitation totale.
Algérie, force !
On ne sait pas ce qui va se passer, mais on est surtout là pour dire que nous serons toujours là. Pour l'Algérie française, vous pouvez le répéter ça.
Nous faisons pour défendre la France.
Je ne veux pas dire que tous les pieds noirs étaient des... Parce qu'il y avait des gens remarquables. D'ailleurs, ceux qui étaient bien, ils ont tout perdu parce qu'ils sont restés jusqu'à la fin croyant qu'il y avait une cohabitation possible. Ils sont partis avec la valise où ils sont morts. Mais les colons les plus riches, ils sont partis avant. Et en plus, ils ne nous aimaient pas, nous. Ils nous disaient, vous êtes des Boriens, il faut les tuer tous. Bon, vous n'êtes pas efficaces, et pati et patin.
Est-ce que tu étais au courant pour la torture? Tout le monde était au courant de la torture.
La torture, celui qui dit qu'il n'en a pas vu ou qu'il n'en a pas entendu, c'est qu'il ne voulait pas savoir, à mon avis. Bon, il y a des gens qui n'ont pas torturé, c'est pas ce que je veux dire. Mais celui qui n'en a pas vu, je ne sais pas comment il a fait. Moi, j'ai vu les Bijar Boys, là, entre Blida et Alger, là, dans une ferme à la Gégène.
Qui c'était les Bijar Boys?
Ben, c'était les parachutistes de Bijard, là. Ils avaient la petite casquette, là. Mais ils étaient pas tendres, hein. Et puis, moi, j'ai vu que la GGN, parce que on entendait crier, là, dans la ferme, là, mais ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça devait pas être à montrer. La GGN, c'était, disons, c'est la torture propre, quoi, si on peut dire. Si on peut appeler ça comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'ils faisaient? On les entendait crier, c'est tout, quoi. Mais le pire que j'ai vu, qui m'a marqué, c'est dans un poste de montagne qui s'appelait Rardouze. Ça se situe au-dessus de Cherchel, dans la montagne, là. Et ce poste de montagne, il y avait une section Harki. Et pour Noël, le sergent Harki, il avait été voir le capitaine, il a dit, écoutez, nous, on est musulmans, si vous voulez, le soir de Noël, nous, on prend la garde. Comme ça, vous pourrez réveillonner, ou c'est tout. Bon, le capitaine, il n'était pas quand même tombé dans la dernière pluie. Il a dit, c'est bizarre, ça. Alors, il a accepté, mais ils avaient monté une embuscade avant le poste. Et effectivement, il y a eu une attaque. Et ces harkis devaient livrer le poste au FLN. Quoi. Le soir de Noël, ça aurait été un carnage. Parce que, bon, le soir de Noël, quand on a... Et alors, il les a tous, ils ont tous été tabassés, torturés. Mais le sergent, moi, je l'ai vu, mais il est sorti, il avait la mâchoire qui pendait, il grelottait, il était plein de coups de partout. Ils l'ont attaché devant le poste de garde là, il lui donnait de l'eau, c'est tout. Et les soldats passaient devant, et il a mis presque un mois à mourir comme ça. Et les gars qui étaient de sa section, ils ont été moins torturés, mais on les a vus dans une tour. Ça, c'était pas permis d'y aller, mais ça, c'est, moi, j'étais assez curieux de nature. Ils étaient enfermés dans une tour, un bras accroché à la charpente, et avec de l'eau, ils sont morts de faim. Et je sais qu'il y en a un par la lucarne, et je l'entends toujours, ça, qui nous a crié, c'est beau, la France, qui dit le gars. Et ils sont morts de faim, là-dedans, quoi. Là, on était, mais là, c'est pareil, on n'a rien fait, on n'a pas dénoncé. Nous, on trouvait que c'était dégueulasse et tout. Mais on disait entre nous, bon, à chaud, dans un contexte comme ça, on les aurait mis le long d'un mur, on les aurait fusillés. Dans le contexte, à l'époque, ça, je l'aurais compris, pas maintenant, mais à l'époque. Mais faire ça, non. Les pays de droits de l'homme, faire des saletés comme ça, c'est pas possible. Malgré qu'ils méritaient peut-être d'être jugés et tout, parce que bon, c'était quand même une trahison. Et ça, je l'ai toujours, ça. C'est, comment on peut laisser mourir des gens de faim comme ça, quoi. Ça, c'est...
Salut le drapeau, en se levant, dire que de la France, je suis l'enfant. Je veux des médailles, je veux des batailles, vive, c'est ma vie. Y'a pas que le sable qui sent chaud, et surtout grain, sa peau apprendra à tuer quand je veux t'aimer et rester ici. Tous dans le même bateau, je préfère les naufrageurs. L'Algérie, c'est beau, mais vu du Sacré-Cœur. 60-62, quelque part ça me fait peur. 60-62, et avec pas que des requins.
À ce propos, je dois indiquer dans mon témoignage que j'ai eu l'avantage et la chance de revenir en Algérie en 77, c'est-à-dire une quinzaine d'années après y avoir été comme soldat.
Armand.
Grâce à des amis qui étaient à Alger à ce moment-là. Et ces amis, ma femme et moi, ils nous ont pris dans tous les postes où j'étais passé. J'avoue qu'en arrivant là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai eu un peu d'angoisse, j'avoue. Alger avait changé, bien sûr, les gens des campagnes étaient venus là et puis ils étendaient leur linge là dans ces villes-là, etc. Ça a changé d'allure. Mais lorsque je circulais dans la rue, l'ancienne rue d'Isly, et que je voyais des jeunes circuler là en paix, alors que j'étais passé avec les armes, bien sûr, comme tout le monde, à la main, etc. Quand on est arrivé, quand on est reparti en Algérie, je me suis dit, c'est quand même autre chose, la paix.
Et lorsque je suis arrivé au dernier poste où, où on était d'ailleurs avec Rémi, je suis allé frapper à la porte de là où j'étais, où j'avais les missions et où j'avais passé un an, alors, un peu innocemment, naïvement, parce que, à la réflexion, c'est vrai que c'était un peu gonflé, dirons-nous. Et, le gars qui m'a reçu, c'est un monsieur de fière allure, là. Je dis un monsieur, oui. Et alors, il m'a dit, mais en gros, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et j'ai dit, alors là, si j'ai un peu hésité, j'étais militaire ici, j'ai dit, mais comment il va le prendre? Alors, il a marqué un temps d'hésitation, et vous savez ce qu'il m'a dit? Tu as bien fait de venir. Bon, tu as bien fait de venir. Et tout en rentrant, il nous a fait rentrer, avec ma femme et le couple qui nous accompagnait, d'amis, et il a commandé les galettes, etc., il nous a avec le café, des femmes, des belles femmes, entre autres, qui on n'a pas vu tellement, mais qui nous ont servi. Et dans la discussion, je lui ai dit, est-ce que tu étais fait le laga? Il m'a dit, à moitié. Ça voulait dire que pour moi qu'il l'était complètement, mais enfin voilà. Et j'ai dit, et je l'ai dit par la suite, je ne l'ai pas dit à lui, que j'étais fier de serrer la main à un Fellaga, oui.
Merci à tous, merci à Armand Vernet, Georges Treilloux, Rémi Serre, Michel Delceaux et Robert Mazeran, les anciens appelés en Algérie, association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, boîte postale 229 81 006 Albi Cedex. Voilà, si vous voulez évidemment leur écrire, les rejoindre et faire partie de cette assoce que nous soutenons de toutes nos forces. À lire le bouquin de Jean-Luc Enaudi, Franc-Tireur, en hommage à Georges Mattei. On parlera de ça demain parce que le temps passe. Technique, Jean-Philippe Jeanne et Antoine Viossa aujourd'hui. Yann Chouquet, c'est les musiques. Raphaël Moutarde, c'est le montage. Pascal Pascariello, c'est celle qui fait tout. Et le répondeur, c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 17h57 sur France Inter. Nous, on se retrouve demain à, pour la base, j'y suis, à 17h. Voici Charivari, présenté par Frédéric Bonneau. Salut!